et avec notre géopolitologue Daniel Haber. Cette semaine, dans les conversations avec lui, nous revenons sur la guerre médiatique qu'Israël et le Hamas se livrent également.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise, et bonjour chers amis.
Comme tous les lundis matins, nous conversons, Daniel, et aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler de cette guerre médiatique qu'Israël a du mal à gagner et nous allons approfondir. Alors, pour commencer, concentrons-nous sur comment comprendre cette guerre médiatique qui se joue en même temps que la guerre militaire.
Mais oui, c'est très important de la comprendre. On voit bien que les opérations militaires suivent un canevas assez bien géré par Israël, sauf la question des otages qui vient évidemment perturber tout ça. Mais en parallèle à ces opérations médiatiques, je veux dire militaires, on voit qu'il y a des opérations médiatiques qui sont en cours, qui sont d'ailleurs l'objet de au fond de cette frustration que les Israéliens et les Juifs du monde entier ressentent. C'est pas tellement ce qui se passe sur place, sur le terrain, c'est tout ce qu'on entend comme horreur et comme attaque sur l'identité même d'Israël et sur l'identité même des Juifs qui fait mal. Et donc pour essayer de comprendre, puisque c'est ce que vous me demandez, d'où vient cette guerre médiatique? Elle commence au fond par la position des États, parce que finalement, quand on fait le bilan, presque 2 mois maintenant, de la position des différents États du monde, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'États qui se sont rangés clairement aux côtés d'Israël. On dirait même il y en a qu'un seul, les États-Unis. On pourrait ajouter la Grande-Bretagne de Sunak. Ce premier ministre britannique, mais qui est d'origine indienne, donc qui a une bonne sensibilité à la question, et qui soutient Israël non seulement diplomatiquement, mais aussi militairement, en ayant envoyé des bateaux de guerre. Mais les autres occidentaux, notamment les Européens, apportent ce que j'appellerais un soutien contradictoire. Ils ont du mal à reconnaître, mais ils le font, que le Hamas est une organisation terroriste. Mais tout de suite, après avoir conclu qu'il fallait qu'Israël ait le droit de se défendre, ils demandent un cessez-le-feu immédiat, c'est-à-dire qu'ils empêchent précisément Israël de se défendre. C'est ce que j'appelle ce soutien contradictoire. La position de la France est assez symbolique à cet égard. Donc, du côté occidental, des soutiens limités. Par contre, du côté des deux autres grandes puissances contestataires, la Russie et la Chine, on voit qu'ils profitent de cette situation pour engranger des bénéfices. Ils voient donc leur adversaire, les États-Unis, engagés fortement au Proche-Orient, et c'est autant qu'ils ne seront pas engagés et en Ukraine et dans le Pacifique. Donc ils accentuent la pression sur Israël, mais c'est en fait une pression sur les Américains. Je crois qu'il n'y a pas d'hostilité franche vis-à-vis d'Israël de la part de ces deux pays, mais il y a le sentiment que on peut profiter de cette situation pour prendre un avantage sur les États-Unis. Mais ce qui est peut-être le plus grave, le plus dangereux, qui justifie vos questions, c'est l'ensemble des pays du monde, ce qu'on appelle le Sud global, qu'on va essayer de un petit peu mieux comprendre. Ça représente 80% des pays du monde. C'est l'énorme majorité des pays du monde font partie de ce qu'on appelle le Sud global. Ce sont des pays pauvres, qui sont pas très bien gérés, qui ont du mal à se développer, mais surtout qui ont en commun un ressentiment qui est anti-occidental. Pays d'Afrique, pays d'Asie, qui ont tous été plus ou moins colonisés, qui ont mené des guerres de décolonisation souvent horribles, et qui, depuis 1945, ont l'impression de subir une sorte de domination économique occidentale qu'on appelle la globalisation, et d'être les perdants de la globalisation, même si c'est faux, et surtout à l'intérieur de ce bloc de 150, 160 pays, 80% des pays du monde, vous avez un bloc très unis, qui sont les 57 pays musulmans qui forment l'Organisation de coopération islamique, la COI, la OCI, qui d'ailleurs est active aujourd'hui aux côtés de la Ligue arabe et qui fait pression sur Israël. Alors ces pays musulmans, c'est presque la moitié de ce Sud global, et eux, ils sont en tête de cette guerre médiatique dont nous parlons ce matin. Et ils ont, tous ces pays, une tradition qui est anti-juive, qui est inscrite dans le Coran. Et puis, les minorités les plus radicalisées de tous ces pays, les islamistes, évidemment, mènent une guerre contre le sionisme et en même temps contre les juifs dans le monde.
Ce
Donc,
sont
c'est
donc
eux.
les traits communs entre ces différents pays?
Ben écoutez, c'est eux qui donnent le ton. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, petit un, nous sommes des victimes. Donc ça, c'est peut-être le thème le plus commun, les victimes. Et c'est très malin de faire ça parce que finalement, on parle des bombardements sur une ville, sur Gaza. Et au fond, tous ceux qui écoutent, y compris chez nous en Occident, ont en mémoire la guerre d'Espagne. Avec le fameux tableau de Picasso, Guernica, les civils sous les bombes. On a en mémoire la Deuxième Guerre mondiale avec les bombardements qui, cette fois, étaient des bombardements alliés sur des villes françaises, sur des villes allemandes, Dresde, sur les villes japonaises, Hiroshima. Donc, si vous voulez, chacun d'entre nous, quelle que soit la position qu'il peut avoir vis-à-vis d'Israël, se sent une victime des bombardements et donc c'est un thème qui est vraiment très porteur. Et puis, il y a toujours l'idée que le Hamas a agi dans le cadre de la question palestinienne, que c'est une sorte d'acte de résistance et donc la faute de en revient à Israël puisque c'est Israël est blâmé pour ne pas avoir laissé les Palestiniens avoir leur propre État. C'est ça qui est décrit. Or c'est faux. L'attaque du Hamas se passe pas du tout, se pose pas du tout dans le cadre de la question palestinienne, mais dans le cadre de la politique de l'Iran qui est d'éviter qu'Israël fasse la paix avec tous ses voisins arabes. Il était en train de la faire avec l'Arabie saoudite et c'est ça qu'il fallait empêcher. Donc en fait, l'action du Hamas, elle se passe dans la stratégie géopolitique du Moyen-Orient où l'Iran est face aux Arabes sunnites. Mais ça, évidemment, est déformé. Et puis il y a un troisième thème qui est celui du viol du droit international. Ceux qui le prétendent ne connaissent évidemment rien au droit international. En réalité, Israël respecte parfaitement le droit international, mais a du mal à faire passer sa position.
Et pour conclure, Daniel Haber, en 3 minutes, pourquoi Israël a du mal à expliciter sa position?
Parce que toutes les déformations de la vérité sont amplifiées par les médias. C'est là qu'il faut regarder de plus près et aussi par les organisations internationales. Les médias prennent pour argent comptant tout ce que disent les ennemis d'Israël, notamment le Hamas. Ils les mettent pas au doute. Par contre, ils mettent en doute tout ce qui est montré par l'armée israélienne en disant on n'a pas été capable de le vérifier de façon indépendante. Donc il y a un rôle de ces médias que je rappelle être le New York Times, le Guardian en Angleterre, Le Monde, des médias internationaux extrêmement respectés, mais qui sont tous positionnés à gauche, et puis sur le plan télévisuel, la BBC, CNN, France 24, qui font un travail de sape sur les positions israéliennes. Et puis, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux qui amplifient encore tout ça. Et enfin, le rôle des organisations internationales sur lesquelles il faut dire un mot. L'ONU, le secrétaire général a été le plus odieux des critiques d'Israël, mais parce qu'il est à la tête de cette vaste majorité de pays. Il est le porte-parole des 80% des pays du monde qui sont représentés à l'ONU. Donc, il amplifie tout ce que j'ai raconté précédemment. Et quand on regarde le rôle des organisations internationales privées comme Amnesty, Médecins Frontières et autres, sont tous gérés par des personnalités très engagées, mais très engagées à gauche, et surtout qui vivent sur le terrain à côté des victimes des bombardements, et donc évidemment qui se sentent également des victimes et qui expriment avec beaucoup de sincérité d'une certaine façon ce rôle de victime. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de monde qui est contre Israël et ça fait quand même pour Israël beaucoup de difficultés à résister.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve lundi prochain, 7h15, comme toutes les semaines, pour de nouveaux décryptages géopolitiques dans les conversations. Merci.
À bientôt.